Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 juin et au menu de cette émission autour de l'actualité en Mayenne, on va parler d'un job dating sans CV. Oui, oui, c'est possible et ça a eu lieu d'ailleurs hier à Château-Gontier pour plus de 120 candidats. On va voir justement comment ça se passe, ce que ça permet, les points positifs, négatifs aussi selon certains. Et puis on se rendra du côté du Manas à Laval, le musée d'art naïf et d'art singulier, avec un projet mené avec des personnes en situation de handicap qui ont justement fait leur propre BD au sein du Manas, au sein du musée. L'aboutissement donc, puisque cette BD vient de sortir, donc c'est l'aboutissement de tout un projet d'un an ou presque, dont ils sont fiers aussi, ils en parleront à notre micro. Et puis Héloïse s'est rendue à la rencontre des nomades soignants, ces aides-soignants qui passent plusieurs mois dans le Nord Mayenne pour venir en aide à leurs collègues, puisqu'on le sait, de toute façon, les aides-soignants, c'est un métier en pénurie. Il y a des besoins dans le Mayenne et donc là aussi, évidemment, dans le Nord Mayenne, on va voir justement eh bien, avec eux comment ça se passe et comment ils ont été acceptés. Et très vite, d'ailleurs, vous allez l'entendre, à la fois par les résidents de l'EHPAD de Saint-Frimbaud-de-Prière dans le Nord Mayenne, mais aussi par leurs collègues de 3 mois. Et puis, nous sommes mercredi, et un mercredi sur deux, alors on alterne, soit c'est la chronique de Soizic, soit c'est la chronique du UFC Que Choisir. Aujourd'hui, UFC Que Choisir, donc pour la dernière chronique de la saison. Évidemment, on commence à jeter un œil du côté des vacances avec tous les bons conseils à retrouver justement, en tout cas, et puis toutes les choses auxquelles faire attention aussi en vacances, puisqu'on le sait, c'est forcément un moment où on se relâche un petit peu. Et donc là, évidemment, l'idée, c'est de pas devenir parano, mais en tout cas d'avoir quelques idées avant de prendre une location ou pourquoi pas réserver un trajet, par exemple, pour vos vacances. Petit rappel, ça, ce sera plutôt dans une deuxième partie d'émission. Et on commence par 3 titres de l'actualité dans le département, avec ce blessé grave dans un accident de voiture hier à Loiron-Ruillé, accident qui s'est produit vers 14h hier mardi, entre une voiture et un deux-roues. Et le pilote âgé de 16 ans a été transporté à l'hôpital en état d'urgence absolue, en sachant que la conductrice de la voiture et son passager, eux, sont indemnes. Du côté de Cran, dans le sud Mayenne, 300 foyers privés de gaz hier à cause d'une fuite, donc vers 11h. En cause, les travaux de terrassement sur la route de Château-Gontier à Cran. Une quinzaine d'habitants du quartier ont été évacués et 300 foyers privés de gaz hier après-midi. La situation semble être revenue à la normale. Et puis si vous allumez votre télévision ce soir sur M6, eh bien, il y aura la Mayenne qui sera à l'honneur dans l'émission Cauchemar en cuisine, en l'occurrence avec le restaurant de Saint-Berthevin-la-Tanière dans le Nord Mayenne, donc émission que vous pourrez découvrir ce soir sur M6 à 21h. Et puis je vous en parlais tout à l'heure, consul, amuseur ou architecte. Alors ce ne sont pas les personnages d'un nouveau jeu de rôle, mais bien quelques-uns des 16 caractères qui étaient à retrouver hier au job dating organisé au VNB de Château-Gontier avec l'agence d'intérim Randstad. L'objectif de ce concept né en 2018, que chacun se débarrasse des clichés sur l'autre, recruteur comme personne à la recherche d'un emploi. Pas de CV ou de nom d'entreprise apparente, même si Céru, Réauté, les fromageries Perrault ou Sotiwell notamment étaient présents. 120 personnes s'étaient inscrites, une bonne surprise pour les organisateurs sur un territoire où le taux de chômage est en dessous de 5%.
Moi je suis Céline Le Breton et je travaille chez VNB. C'est un concept qu'on a créé en partenariat avec Randstad, voilà. Puisqu'à l'époque, en fait, ils avaient des grosses difficultés déjà à recruter du monde. Et en même temps, ils en avaient marre de recruter de façon très traditionnelle dans un bureau, dans leurs agences. Donc on a des candidats qui se sont inscrits. Ils ont fait un test de personnalité en amont qui leur donne du coup un petit profil, un petit personnage. Randstad a invité 8 entreprises qui sont sur le bassin de Château-Gontier. Et aujourd'hui, par contre, ils sont anonymes. C'est-à-dire que là, les candidats ne savent pas à qui ils vont avoir affaire. Voilà. Donc on a traduit, on va dire, la culture d'entreprise de chaque entreprise, les postes qu'ils ont à recruter à travers les mêmes profils de personnalité. Alors, il peut y avoir amuseur, il peut y avoir protagoniste, logicien, architecte. Voilà, donc ça montre un peu des traits de personnalité, qu'on casse tous les préjugés, il n'y a pas d'a priori. L'entreprise ne sait pas par quel parcours le candidat est passé, par quelle entreprise, par quel métier. Il n'y a pas de CV et le candidat, pareil, va rencontrer donc des recruteurs, mais sans a priori non plus, parce que des fois, on peut avoir des a priori sur certaines entreprises. On a beaucoup de candidats à venir et puis surtout, on a un taux de conversion qui est ultra intéressant, avec des gens vraiment qui trouvent des emplois à la clé. Donc, c'est plutôt une belle chose. On est content.
C'est la première fois, ouais. Et du coup, c'est intéressant. Puis ça permet de parler de soi un peu sans son CV, parce que parfois c'est vrai que le CV, ça peut poser des contraintes. Moi je sais que je suis maman et j'ai eu un trou dans mon CV. Parfois les entreprises elles aiment pas ça, et c'est pas ça qui fait que on va forcément moins bien travailler ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt cool, ça donne des portes ouvertes en fait. Le fait qu'on se déplace aussi dans ce genre d'événement, peut-être que ça donne une meilleure image par rapport à notre motivation, etc.
En fin de compte, ça stigmate autrement, parce qu'on cherche des gens avec des profils suivant des termes et un test psychologique. Et ça stigmate autrement, parce qu'on cherche apparemment cette personne-là et pas d'autres qui pourraient peut-être faire ça peut-être autrement. Et donc, on remet les gens dans des cases. Et ça stigmatise à nouveau, parce que moi, sur mon profil, il y a 3 entreprises qui sont intéressées par mon profil sur 8.
Je suis consul. Ils disent personne organisée, c'est tourné vers les gens, service de la personne, respect de la hiérarchie. J'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'on est vraiment axé sur un échange vraiment sur les valeurs qui nous tiennent à cœur plutôt que sur notre expérience. Et je trouve ça chouette qu'ils s'intéressent plus à la personne qu'à l'expérience. Ça donne plus de chance à tout le monde, je pense.
Et donc ça avait lieu hier et les demandeurs d'emploi seront d'ici quelques jours s'ils ont plu à un ou plusieurs recruteurs. Sur ce format open, en général, plus d'un tiers des postulants ont une suite à ce premier échange. Un tout autre sujet maintenant, être personnage de sa propre BD, Omanas à Laval, c'est la belle aventure d'une dizaine de bénéficiaires du C2A de Laval, le centre d'accueil de jour et d'activité pour les personnes en situation de handicap. La bande dessinée, sur laquelle ils ont travaillé depuis le mois de septembre, vient d'être publiée, ça y est. Son histoire, c'est celle de plusieurs personnes du C2A qui viennent visiter le musée d'art naïf et d'art singulier de Laval, et qui se retrouve transformé en personnage des œuvres du musée. C'est le 3e projet mené par le C2A et le Manas qui a demandé beaucoup d'investissement de chacun, comme l'explique Cyrielle Langlais, directrice adjointe des musées de Laval.
Ils ont conçu ce projet vraiment de bout en bout, c'est-à-dire sur l'étape de conception, qu'est-ce qu'une bande dessinée, qu'est-ce qu'on veut raconter, et puis sur les étapes aussi de réalisation pratique, écriture de scénario, prise de vue. En fait, c'est une bande dessinée, non pas dessinée, mais photographiée. On regarde les œuvres différemment, on essaie de leur faire raconter une autre histoire. Donc ça permet vraiment de réinventer en fait à chaque fois la collection et notre propos. Donc, c'est vraiment un lieu qui appartient à tout le monde. C'est vrai que ce genre de projet, ça permet de s'en souvenir, de le rappeler, de réinvestir les publics dans nos lieux. C'est vrai qu'un des objectifs, c'est évidemment que les familles viennent à leur tour découvrir les œuvres, ou alors que les familles qui découvrent le musée que par la bande dessinée, quand elles viennent ici, se disent « Tiens, cette œuvre-ci, je la connais, je l'ai déjà découverte par un autre biais. » Donc c'est vraiment un des enjeux.
Le projet BD, c'était vraiment un très bon projet, parce qu'on a mis du temps à nous faire cette BD par les personnes du musée. Et personne ne se dit là. On en est très content d'être voir le final de la BD, et on sait bien parce que on nous offre le livre la BD pour nous et un pour César. Voilà.
Je suis Marie-Laure Mina, éducatrice spécialisée au centre d'accueil de jour, les C2A de Laval. Ça a été un engagement qu'ils ont vraiment bien assumé pendant à peu près 7 mois, de septembre à avril. Donc une participation à hauteur d'à peu près 2 fois par mois. Ils ont été investis, intéressés, puisque c'est une histoire qu'ils ont construite eux-mêmes, avec donc Charlotte et Marine du musée, qui les ont aidés avec nous à mettre en mots, à mettre en images. Ils sont fiers de participer à tout ce qui est culturel, et à présenter des œuvres qu'ils peuvent créer aussi, et présenter leurs créations. C'est un travail qui est quand même exigeant, c'est pas parce que ce sont des personnes en situation de handicap qu'il y a une indulgence sur la qualité. Ils viennent ici comme ils pourraient aller dans un autre lieu, c'est pas quelque chose de rébarbatif, ça leur parle. Les œuvres, on a travaillé dessus, l'art vient à eux, ils viennent à l'art, et Voilà, c'est accessible à tous.
Et la BD Le miroir magique du Manas, c'est donc son nom, est consultable dans le coin lecture du musée, mais aussi en version numérique sur son site internet. Et puis, on va parler des nomades soignants, de cette initiative prise par deux aides-soignants dans le Nord Mayenne, juste après avoir écouté Parcells avec Free, bien sûr, dans la JT du local sur l'autre radio. On est bien installé, ça y est, avec Parcells, c'était Free dans l'agité du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio. Et je ne suis pas seule pour cette émission, j'ai la chance d'être avec Héloïse. Salut Héloïse.
Salut Marie.
Et c'est toi qui vas justement nous présenter l'interview, puisque ce sont deux personnes que tu as pu rencontrer.
Et oui Marie, ils sont des renforts bienvenus à l'EHPAD de Saint-Frambaud-de-Prière et s'en vont d'ici la fin du mois. Ces deux soignants nous racontent leur initiative solidaire. Aujourd'hui Marie, je suis allée à la rencontre de deux soignants qui sillonnent la France et ses déserts médicaux dans leur camping-car afin de prêter main forte à leurs collègues du secteur médical. Et oui, aujourd'hui je suis en compagnie de Wilfried et Julien. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors tout d'abord, pour commencer cette interview, je vais peut-être demander, pour que nos auditeurs cernent un peu plus vos deux personnages, de présenter votre projet, si je puis dire, et puis de nous en dire un petit peu plus sur vous et sur l'initiative qui vous motive aujourd'hui.
Alors bonjour, moi c'est Wilfried, j'ai 33 ans, je suis aide-soignant depuis 2012, et c'est vrai qu'on parcourt pas mal les routes de France pour pallier au manque d'effectifs dans les structures de soins.
Donc, alors, moi, c'est Julien, donc j'ai 38 ans, je suis aide-soignant depuis 2015. Nous parcourons la France à la demande des structures, en fait, qui sont en manque de personnel. Donc, on essaye de répondre aux demandes comme on peut. Malheureusement, nous sommes que deux.
Donc, un projet qu'on peut qualifier largement de solidaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, d'où arrivez-vous ?
Alors moi, je viens de la Picardie, donc dans l'Oise, non loin de Compiègne. Donc on a commencé à travailler sur le projet en 2016. Il s'est concrétisé donc en 2021, le 1er septembre 2021. Avant, on déménageait de région en région avec nos meubles et on s'est vite rendu compte que logistiquement, c'était un peu compliqué. Donc, on a trouvé une autre solution. Donc, on a regardé différents moyens d'habitation alternative et on s'est rendu compte que le camping-car, c'était le plus approprié, en fait, pour être plus autonome et pouvoir bouger plus facilement avec notre maison roulante.
Alors, moi, je suis également originaire de la Picardie, de la Somme, de la ville d'Amiens, exactement. Sachant qu'il faut savoir qu'en fait, on a fait cette démarche parce que nous nous sommes rendus compte, à force de déménager, que les structures étaient énormément en difficulté. En fait, la crise sanitaire du Covid n'a fait que amplifier le départ de personnel suite à une surcharge de travail, à des burn-out, etc. Enfin, ce qui incombe à chacun. Donc, nous, après, nous avons pris cette solution, on va dire, pour essayer en fait un peu de redorer un peu l'image qu'on peut avoir des aides-soignants. On a une dimension de soins de nursing à prendre, mais en fait, on a tout un travail à côté de tout ce qui est psychosocio-culturel à prendre en compte au niveau des personnes, que ce soit patients ou résidents. Donc en fait, on tient à mettre à cœur ces concepts-là. Et nous, après, c'est surtout des valeurs, notamment au niveau de la personne âgée, parce qu'en fait on se rend compte que la personne âgée, on reste quand même dans une image où tu es âgé, on te met en EHPAD. Non, l'EHPAD en fait ce ne sont pas des mouroirs, ce sont des lieux de vie. Les gens, soit ils viennent terminer leur jour, mais nous on est là pour les accompagner au mieux dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités thérapeutiques qu'on peut mettre en place avec les autres professionnels de santé. On essaye aussi les rebooster par rapport aux surcharges de travail qui parfois font que les équipes sont fatiguées et puis n'ont plus forcément l'envie de se redonner à fond. Et nous, c'est qu'on essaye d'apporter ça pour un peu rebooster tout ça.
C'est ce qu'il faut aussi retenir de ce travail d'aide-soignant, qui est avant tout un travail multicasquette en fait. C'est comme vous l'avez dit très bien, vous intervenez aussi bien sur le plan médical, mais le médical est encore une fois un secteur très large, que ce soit dans le cadre psychologique, dans la mobilité aussi de ces personnes âgées. Et alors, vous nous l'avez dit, vous intervenez dans des structures. Depuis 3 mois ici, on peut vous retrouver à l'EHPAD à côté de Lassay-les-Châteaux. Mais alors, intervenez-vous uniquement dans des structures, donc des EHPAD, ou intervenez-vous aussi dans d'autres structures
Tout à fait, on intervient dans toute structure de soins. Là, juste avant, on était en Bretagne dans une masse pour personnes handicapées. Après, on part dans une maison pour autistes, mais on a déjà fait des hôpitaux, on fait vraiment toute structure de soins.
Puisque donc du coup l'objectif c'est aussi de rappeler qu'un aide-soignant est indispensable dans chacune de ces structures que vous nous avez citées. Donc on l'a dit ici, vous vous trouvez à Lassay-les-Châteaux, vous l'avez dit également aussi, le quotidien d'aide-soignant c'est plein de choses à la fois. Est-ce qu'il existe une journée type ici à Lassay-les-Châteaux? Quelles sont vos missions? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Donc en fait, en fonction des postes, en fait, on a diverses tâches. Donc le matin, principalement ce sont les soins de nursing. Mais à côté, il y a quand même tout ce qui est les transferts au niveau des résidents. Il faut des aides au repas. Sachant que dans les soins de nursing, on ne fait pas à la place de la personne. Une personne qui peut faire, on l'encourage à faire ce qu'elle peut. En fait, on essaye de préserver au maximum leur autonomie. Donc, ce qui peut prendre un peu plus de temps, mais c'est pour qu'elle, la personne, on va dire, elle se sente encore capable de faire les choses. Après, il y a le temps du repas, ludique, qui est très important pour les résidents aussi. Donc, ça se passe dans un salon qui s'appelle le Jardin d'hiver ou dans le restaurant. Donc là, en fait, c'est pareil, on les accompagne pendant le repas, on est présent auprès d'eux. Une fois le repas terminé, du coup, il y a des mises au WC, il y a des changes à faire, etc. Après, il y a des gens qui participent aux animations. Donc en fait, ici, deux animatrices et il y a aussi un PASA. Donc c'est un pôle d'activité de soins adaptés, donc qui est géré par deux animatrices. Où là où en fait c'est un peu plus du soin, on va dire, de petits groupes et plus personnalisé auprès des résidents parce qu'ils en ont besoin aussi. Parce que bon, l'EHPAD c'est aussi de la vie en collectivité, mais des moments on a besoin aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus privilégié, un peu plus intimiste. Et après on a aussi une collègue qui est socio-esthéticienne, donc là elle travaille sur le bien-être du résident, sur l'image de soi. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on doit se laisser aller, voilà. Donc elle met à cœur son travail vraiment sur l'image de ces personnes. Et donc l'après-midi, après il y a des animations comme des bals, il y a les goûters d'anniversaire, ils font des sorties. Là récemment ils sont allés voir les boucles de la Mayenne quand il y a eu la course de vélo. Il y a un planning d'activité qui est assez bien rempli. Et après vient le moment du coucher où là, ben en fait, on essaye de les accompagner au mieux parce qu'il y a quand même des couchers qui sont assez ritualisés, hein, faut le dire. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de certaines choses pour se sentir en sécurité parce qu'il y en a beaucoup, les angoisses commencent à venir la nuit. Donc jusqu'à à peu près 21h le dernier poste et après on fait nos transmissions à l'équipe de nuit et l'équipe de nuit prend le relais pour la nuit.
Si je comprends bien, si on peut essayer d'aller à l'encontre de tous ces clichés qui rôdent autour de l'EHPAD et de ces structures qui accompagnent la fin de vie, c'est, si on pouvait le résumer en trois mots, la confiance en soi, l'autonomie et est-ce que vous en aviez peut-être un dernier à me donner ?
La dignité.
La dignité de la personne âgée et le bien-être. Donc ça, c'est essentiel. C'est aussi un combat aussi peut-être personnel. Est-ce qu'il y a, à travers toutes vos expériences, des choses que vous allez retenir, que vous avez déjà retenues, des leçons et aussi peut-être des messages finalement à passer à nos auditeurs autour que ce soit du métier d'aide-soignant ou de toutes ces structures qui aujourd'hui sont au cœur de nos débats finalement.
Nous, en fait, ce qu'on essaye de mettre à cœur, c'est que voilà, les familles, elles n'ont pas à culpabiliser de mettre leurs parents en structure, même si c'est assez difficile. Nous, on est là pour les accompagner. Il faut nous faire confiance. On sait que c'est très difficile pour eux de passer d'une maison à une institution. Voilà, il y a d'autres repères à prendre et tout ça. Enfin, les EHPAD d'aujourd'hui, ce ne sont plus ceux d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les personnes qui rentrent aujourd'hui, elles rentrent de plus en plus âgées, avec des troubles physiques, psychiques de plus en plus importants. Donc en fait, l'accompagnement, il doit être beaucoup plus personnalisé. Et nous, ce qu'on essaye de faire comprendre aussi, les aides-soignants qui nous entendront, je pense qu'ils auront le même avis que nous, on aimerait en fait, nous, qu'il y ait un peu plus de considération pour notre travail, parce qu'il faut le dire, hein, si on n'est pas là, les structures ne tournent pas. Ça, c'est clair et net. Nous, on le voit, on est une équipe, il suffit qu'il manque un poste ou deux postes. Notre journée est totalement chamboulée, on doit se réorganiser tout de suite. Et en fait, qu'on nous entende aussi là-dessus et qu'il y a un manque de personnel, on en demande plus, peut-être qu'il faudrait encore revaloriser peut-être les salaires, revoir les conditions de travail pour attirer plus de monde. Après, sachant que la formation d'aide-soignant, ça ne se fait pas en 15 jours. Je veux dire, là, le diplôme a été réformé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a encore plein de choses à apprendre. Qu'on fait que les gens se déplacent et qu'ils se viennent se rendre compte de ce qu'on fait sur le terrain, en fait. Parce que je peux vous dire que quand vous faites une journée de 11h ou 12h, quand vous sortez, vous êtes vidé. Physiquement, psychiquement, c'est assez compliqué. Bon, nous, c'est peut-être un peu plus physique. Par contre, je pense à nos collègues qui sont dans l'unité protégée, ce qu'on appelle l'unité de vie Alzheimer. Donc là, sont avec des personnes qui ont des troubles cognitifs un peu plus sévères. Donc là, il y a une charge mentale un peu plus importante. Donc là, c'est une autre prise en soin, même au niveau de l'ARS. Que l'ARS se rende compte on a une surcharge de travail qui est assez importante. Et qu'en fait, on ne soit pas jugé par rapport à un métier que les gens ont cette représentation-là. Mettez notre blouse et venez voir ce qu'on fait au quotidien.
Alors, nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup dans l'humanitude. Donc, on respecte vraiment le rythme des résidents au plus pour vraiment que voilà, on les réveille pas non plus à 7h du matin parce qu'il faut les réveiller. S'ils dorment, on les laisse dormir. On a d'autres travail à côté. Nous, c'est vrai que on travaille vraiment sur l'humanitude.
Ah, ben oui, ça y est, oui, c'est bon.
Ça va ?
Monsieur Béthier, bonjour.
On vous attend alors ? On vous attend, mais je gribouille tout le temps.
Est-ce que ça va vous affecter le départ de Wilfried et Julien ?
Ben oui, parce qu'ils sont quand même habitués là. Et puis moi, on est habitués de... On les suit aussi, alors... Oui. Comme je vous dis, on ne les voit pas souvent, ils vont partout, alors...
Ils sont très occupés.
Très occupé, oui.
Comment vous trouvez l'initiative de vos deux soignants ?
Oh ben c'est très bien ce qu'ils font. Ouais, très bien, très bien. Et puis très gentil.
Ouais.
Ben oui, je sais maintenant qu'ils voyagent. Ouais. Et puis je sais maintenant qu'ils vont aller dans le sud de la France. Ils ont foi par là.
Est-ce que si vous aviez un message à faire passer à Wilfried et Julien avant qu'ils s'en aillent ?
Qu'ils continuent comme ils sont bien partis, et puis que ça, qu'ils voyagent comme ça, puisque c'est bien.
Et alors, vous vous êtes toujours senti bien accompagné par les équipes médicales qui vous ont entouré,
Oui. Aucun problème. Oui. Comme les infirmières, tout ça, ils sont gentils. J'ai tellement été bien suivi avec mon docteur qu'il m'a toujours mis dans le bon chemin. Il y a 8 ans, j'étais attaqué de la foudre. Et avec ça, il m'a resté des séquelles et il m'a tout le temps suivi. Alors, et là, il est parti du 23 décembre et il m'a dit, « Monsieur Vétier, vous vous occupez de rien du tout. Vous trouvez un docteur et puis ça vous continuera comme vous êtes. » Et bien, ma foi.
Bonjour.
Bonjour, je suis Virginie, infirmière à l'EHPAD de Saint-Frambeau. Je suis dans l'établissement depuis 4 ans, mais j'ai 26 ans de carrière derrière moi.
Et alors, est-ce que l'arrivée de Wilfried et Julien a changé quelque chose dans votre équipe ? Est-ce que pour vous personnellement, ça a constitué un soulagement ?
Alors Wilfried et Julien sont arrivés dans une période où on manque de personnel, comme dans beaucoup d'établissements. Donc leur arrivée a été une vraie bouffée d'air pour les équipes. Voilà, et ils ont apporté leur expérience qui a fait énormément de bien pour redynamiser l'équipe.
Est-ce que nos deux aides-soignants préférés vont vous manquer ?
Oui, l'équipe appréhende déjà leur départ parce qu'ils se sont tellement bien intégrés. Tout de suite, ils ont été acceptés et ils ont apporté leur dynamisme. Et le fait qu'ils s'en aillent, l'équipe appréhende beaucoup. Pour ma part, c'est pareil. Je perds deux amis qui s'en vont un petit peu plus loin, donc voilà, mais bon, on sera toujours en contact, mais c'est vrai qu'ils vont nous manquer.
Vous l'avez compris, nos deux aides-soignants s'en vont à la fin du mois. Rappelez-nous quelle est votre prochaine destination.
Alors après, on part en Ardèche et normalement donc vers Perpignan et Pays Basque.
Et si vous êtes une structure médicale dans le besoin, nos nomades soignants, victimes de leur succès, sont sollicités jusqu'à fin 2024.
Oui, donc on voit bien qu'il y a des besoins aussi. Merci beaucoup, Héloïse, pour cette interview en longueur, en tout cas, que vous pourrez réécouter si vous êtes arrivé en cours, eh bien, en podcast sur notre site l'autreradio.fr. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 juin, fête de la musique. Alors, place à la musique, justement, avec Falls. Et c'était Fall the Syrups dans l'agité du local sur l'autre radio que vous pouvez écouter sur le 101.7 ou le 107.9 évidemment. Et on va passer à la chronique de ce mercredi avec déjà, eh oui, c'est déjà la dernière de la saison, celle de l'association UFC Que Choisir de la Mayenne qui ne compte pas vous laisser sans conseil pour vos vacances cet été. Bonjour Jean-Michel Guinaudeau, cette chronique c'est la dernière de la saison. Avant de nous quitter, quel conseil donnez-vous aux consommateurs mayennais ?
La vigilance. Sans être paranoïaque, la vigilance implique de se méfier de tout, de ne pas faire confiance aveuglément. Il faut être curieux et ne pas avoir honte de ne pas savoir. Personne n'est compétent dans tous les domaines et les vacances sont à l'origine du relâchement et certains le savent et en profitent.
Pour votre association, c'est une période de litige spécifique ?
Eh oui, comme il y a un mode de consommation spécifique pendant les vacances, les litiges qui nous sont exposés sont particuliers. Surtout après, d'ailleurs. Cela peut concerner les transports, les vols retardés ou annulés, ou les difficultés de remboursement. Comme toujours, c'est lors de l'achat que les précautions doivent être prises. Quelle est la compagnie ? Quelles sont les responsabilités de la plateforme qui sert d'intermédiaire ? Interviendra-t-elle lors d'un litige ? Cela est précisé dans les conditions générales de vente qu'il faut lire. Lors d'un retard ou d'une annulation, il ne faut pas prendre d'initiative. Personne ne vous remboursera l'hôtel, les repas, le taxi, le train que vous avez vous-même commandé. Il faut toujours s'adresser à la compagnie qui assure le vol. Pour le logement, les mêmes précautions sont à prendre lors de l'achat. Il est souvent préférable de retenir un hôtel directement plutôt que de passer par une plateforme. Les plateformes peuvent être utilisées pour sélectionner l'établissement, mais la réservation sera faite directement. Ceci, évidemment, pour un séjour en France. Pour un séjour à l'étranger, le passage par une plateforme peut s'avérer nécessaire pour des questions de langue. Il s'agit aussi d'un logement de type gîte, Airbnb, chambre d'hôte. Ne pas négliger l'état des lieux d'entrée. Cette étape n'est pas légalement obligatoire, mais s'avérera bien utile en cas de constatation d'un éventuel dégât. Évidemment, cette opération sera réitérée lors du départ, et en présence du propriétaire ou de son représentant. Avec un smartphone, une vidéo est vite faite. Attention au propriétaire trop gentil, qui dit vous faire confiance. Même chose pour la voiture de location. Il faut se laisser le temps entre l'arrivée à l'aéroport et le départ de l'avion, car l'urgence est toujours à l'origine de problèmes. Et surtout, ne pas laisser le véhicule en dehors des heures d'ouverture du bureau de location. Elle reste sous votre responsabilité jusqu'à l'ouverture du bureau. Les prestations ne sont pas celles qui étaient prévues au catalogue. Il faut aussitôt le faire savoir au responsable et de façon écrite, un appel téléphonique devant être confirmé par un mail ou un courrier. Une réclamation au retour ne sera pas prise en compte. Et une intervention de notre part ne pourra se faire que si elle est appuyée sur des preuves. Enfin, faites une liste des formalités et documents dont vous avez besoin. Carte d'identité, passeport, visa, assurance, carte bancaire, forfait téléphonique, nom des correspondants. Et pour la surveillance de votre logement pendant votre absence, pensez aux opérations vigilance dans la police ou de la gendarmerie.
Donc, même en vacances, il faut être vigilant et ne pas baisser la garde.
Avoir en tête ces quelques recommandations permet souvent d'éviter le pire.
Merci Jean-Michel Guinaudeau pour ces informations. Pouvez-vous nous rappeler les coordonnées de votre association au cas où nos auditeurs mayennais seraient en litige avec un professionnel ?
L'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, Mayenne et Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel. Nos bureaux seront fermés pendant le mois d'août. Bonnes vacances à tous.
Eh ben merci, évidemment bonnes vacances à vous, si ça y est vous en avez bientôt, ou même si ça arrive un petit peu plus tard en juillet-août, c'est l'occasion, allez on le refera, mais je vous souhaite de très bonnes vacances, puisque, alors on ne part pas en vacances, hein, mais pour autant c'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui, mercredi 21 juin. Restez bien à l'écoute de l'autre radio, puisqu'à 19h il y aura Novorama, à 20h The Voice of Cassandre, et à 21h une autre émission musicale, Chaosphère. Et nous, on revient bien demain pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une très belle journée à tous.